une dernière fois. C'est le dernier message dans notre série d'études sur Lévitique et sur les cinq sacrifices et les sept fêtes religieuses. Peut-être vous êtes au bout de votre patience, et j'espère que non. Ça a été un peu dense, différent, très différent des prédications ordinaires peut-être. Mais j'espère que le Seigneur vous a aussi parlé et vous a aussi encouragé de la magnificence de son plan, de sa parole, de la manière dont il nous parle et nous instruise, et même avant le Christ, mais aussi maintenant. Bien. Nous allons lire aujourd'hui la partie qui concerne la fête des huttes. Et donc, nous commençons notre lecture dans le verset 33. La fête des huttes, parfois appelée la fête des tabernacles. Écoutons donc la parole de Dieu. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux Israélites et dis-leur, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des huttes en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et le 8e jour, donc 7 jours couronnés par un 8e jour, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Vous vous préoccupez seulement de ce rite, de cette convocation devant l'Éternel. Telles sont les solennités de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez pour offrir à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, des holocaustes, des offrandes, des sacrifices, des libations. Libations, c'est des sacrifices en vin ou en eau qu'on déverse devant l'Éternel, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, sans compter vos dons, vos vœux, ainsi que toutes les offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. Donc, il rassemble un peu tout. Vous allez venir parfois de vous-même, mais il faut aussi célébrer les 7 fêtes religieuses. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, parce que nous sommes en septembre et c'est la fin des moissons, toutes les moissons maintenant sont dans les greniers. Donc, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour férié, donc un sabbat, et le 8e jour, un jour férié. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des sols de rillères, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous allez vous réjouir, c'est un commandement, pendant 7 jours. Vous allez être heureux devant l'Éternel et vous éclater de joie pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des huttes, faites de ces branches, de ces branches de palmiers, etc. Tous les autochtones en Israël demeureront sous des huttes. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les Israélites, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que Moïse parla des solennités de l'Éternel aux Israélites. Rappelez-vous que nous sommes maintenant arrivés à la dernière série de fêtes. Nous montons à Jérusalem en septembre. Tisri, c'est le mois en hébreu. Et nous célébrons d'abord la fête des trompettes. Pendant un jour, le premier jour du mois, on sonne la trompette toute la journée pour rappeler aux gens que la fin arrive. Un jour du jugement arrive et vous serez convoqués. Le dixième du mois, 10 jours plus tard, il y a le jour le plus solennel, où on s'humilie le plus devant l'Éternel, c'est un jeûne, c'est le jour de l'expiation. Et c'est ce jour où le grand sacrificateur peut, cette seule fois dans l'année, pénétrer dans le lieu très saint avec le sang des sacrifices. Et donc, ça nous parle de ce sacrifice de Christ, bien sûr, mais du Christ, notre grand sacrificateur, qui pénètre, lui, au-delà du voile, dans la vraie présence de Dieu, et donc qui est notre salut final. Lui, déjà, il est passé par le jugement final. Vous savez qu'il y a une personne qui est déjà passée par le jugement final, une seule, c'est Jésus-Christ. Donc, au calvaire, il expérimente le jugement final sur lui à cause de nous et il dépasse, il est à l'autre côté du dernier jour, dans un sens. Et donc ce jour de l'expiation le montre, lui, à l'autre côté du jour final sur lequel on est convoqué. Et il est notre salut ce jour-là. Mais donc le 15e du mois, on doit célébrer la dernière fête de l'année du calendrier religieux. La dernière fête. Et c'est une fête de 7 jours plus 1. 7 jours plus 1. Il dit constamment 7 jours dans le texte, n'est-ce pas? Mais vous avez vu qu'il y a un huitième jour. Et donc, nous voulons commencer tout simplement en posant quelques questions. Quels étaient les noms de cette fête? Parce que souvent, ça nous donne des pistes. La fête avait deux noms. Dans le texte de Lévitique, vous avez vu le nom, la fête des huttes. D'accord? Parce que le peuple devait faire du camping en plein air pendant 7 jours sur des abris faits de branches, etc. Aussi, dans l'Exode 23, 16, je ne vais pas tourner pour. Faites-moi confiance, vous pouvez le regarder plus tard. On appelle cette fête la fête de la moisson. Ça peut vous troubler parce que la fête de la Pentecôte était aussi appelée la fête de moisson, parce que c'était après une moisson. La différence étant que ici, la fête de la Pentecôte, c'est vraiment la fête de la première moisson. On est au début de cette saison un peu, comme le jour de la Pentecôte, on était au début de la moisson des gens qui viennent à Jésus-Christ, le jour de la prédication de Pierre, 3 000 se convertissent. Alors que maintenant, nous sommes à la fin de l'année religieuse, qui représente la fin du monde. Okay? Ces trois dernières fêtes nous parlent de la fin du monde. Et cette fête donc est célébrée une fois que toutes les moissons sont dans le grenier. Et tout est là on célèbre la fête. Donc ça veut dire que vous avez bien compris, on ne peut pas célébrer cette fête avant d'arriver dans la terre promise et de s'installer, d'être au repos dans ce pays et d'avoir les moissons. Ok? C'est une fois que nous sommes au repos. Voilà, ça fait tilt. Ça vous parle d'un avenir pour nous et d'un repos qui représente la fin du monde. Quelles sont les caractéristiques de la fête? D'abord, la structure. Nous lisons dans le verset 35 et 36, le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices, le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Donc, comme je vous ai dit, c'est 7 jours, le numéro sacré, dans le septième mois. 7, c'est le numéro d'achèvement aussi, de perfection, d'arriver à la perfection. Et donc, il y a un huitième jour. Il y a un huitième jour. Je pense simplement au fait que un enfant, un garçon juif devait être circoncis le huitième jour. Et les commentateurs bibliques nous disent que le huitième jour représente une nouvelle création. Dieu a créé le monde en 7 jours. Okay. Et si Dieu fait une nouvelle création, ça va être un huitième jour. Et donc la circoncision représente le nouveau cœur. Le cœur circoncis, c'est un nouveau cœur. C'est une nouvelle vie. Et donc on pense que peut-être ce huitième jour marque le fait que ça nous parle de l'éternité, de la commencement du nouveau monde. D'accord? Voilà, donc c'est, comme vous l'avez vu dans le verset 40, vous vous réjouirez devant l'Éternel pendant 7 jours. C'est la plus joyeuse de toutes les fêtes juives. Ça ne nous étonne pas si ça nous parle du paradis, que c'est là qu'on va se réjouir, se réjouir, se réjouir, se réjouir, se réjouir pendant 7 jours. N'est-ce pas? Donc, c'est la fête qui est la consommation de l'année religieuse, comme je l'ai dit. Qu'est-ce que les Juifs devaient faire? Alors, d'abord, ils devaient faire ces huttes avec ces différentes. Il y avait certaines plantes, mais regardez le verset 40. Le verset 40 nous dit: Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. C'est important. Des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, etc. Donc, nous allons habiter, si nous sommes juifs, sur des huttes qui sont vraiment tout beaux, toutes belles, ces huttes. Ce n'est pas juste une tente provisoire qui est moche, mais bon, c'est comme ça quand on fait du camping, c'est une vieille tente qu'on a. Non, on est dans une structure provisoire, comme un pèlerin, comme nous, en pèlerinage vers le paradis, mais la structure est belle, même si c'est temporaire. Temporaire. Ensuite, et il faut préciser qu'ils devaient habiter les huttes pendant 7 jours, et le huitième jour, ils rentrent dans leur maison. Intéressant, n'est-ce pas? Nous cheminons vers le paradis des pèlerins, et puis on rentre à la maison, à la fin. Tout ce symbolique oui, c'est difficile de décortiquer. Je ne veux pas être absolument dogmatique sur tous les points, mais j'essaie de vous donner des pistes, des idées. D'accord? Il y a certaines choses qu'on peut dire avec plus de certitude que d'autres. Bien, maintenant, un point important pour nous, c'est de comprendre les sacrifices offerts ce jour-là. Et pour cela, il faut que vous regardiez quand même juste un moment, Nombre chapitre 29. Nombre 29, où nous avons encore des propos au sujet de cette fête des huttes. Non, on ne va pas lire tous les versets, mais je vais vous donner une idée en regardant juste la partie qui va nous concerner. Regardez dans le chapitre 29, le verset 12. Donc le 15e jour du 7e mois, voilà, on y est, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage servile, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Vous présenterez en holocauste consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel 13 jeunes taureaux, 13, 13, 13 taureaux, gardez taureaux, 2 béliers et 14 agneaux. C'est beaucoup ce jour-là. Ça, c'est le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, le second jour, verset 17, le second jour, vous offrirez 12 jeunes taureaux. Pas 13, mais 12. Combien d'agneaux? Toujours 14. Ensuite, le troisième jour, vous offrirez combien de taureaux? 11. Vous voyez, 13, 12, 11. Toujours 14 agneaux. Je ne vais pas vous faire le reste de la liste, mais Les 7 jours vont comme ceci. 13 taureaux, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Et le huitième jour, combien? On dirait 6, n'est-ce pas? 1. Subitement, le huitième jour, le compte à rebours descend subitement à un seul. Et les 14 agneaux, tous les jours, pendant 7 jours, deviennent 7 agneaux. Ça veut dire que le dernier jour de la célébration de cette fête, on a exactement les mêmes sacrifices que le jour de l'expiation. Un taureau, 7 agneaux, un bouc pour le péché. Si vous voulez, vous pouvez retrouver tout cela dans Nombre 7 à 11. Si vous comparez, si vous voulez, si vous notez des choses, vous comparez Nombre 29, 7 à 11 avec Nombre 29, 36 à 38 et vous verrez que le dernier jour de la fête des huttes, on tombe sur la même chose que le jour de l'expiation. Bien. Nous terminons avec le dernier point. Quel est le sens de tout cela? Et j'aurais quatre choses à vous dire. La première chose, c'est que cette fête parlait aux Juifs d'une expiation finale et définitive qui met fin à tous les sacrifices du système lévitique. Les gens parfois se demandent, mais est-ce que les Juifs savaient que leur système était passager, que le judaïsme, avec tous ses rites, n'était pas fait pour durer, que ça parlait d'autre chose, de réel, et que ça devait disparaître? Oui, il y a toutes sortes d'indications dans la Bible, et pas simplement symboliques comme ici, mais parfois explicites, qui parlent du fait que Dieu ne veut pas de sang de bouc ou de taureau, et tout cela, c'est juste pour un temps. Mais vous avez bien compris par ce que je vous ai dit, par ce compte à rebours, que nous avons des tas de sacrifices pendant 7 jours. Ça nous parle bien du système lévitique, des tas de sacrifices, du sang qui coule de ces animaux. Et puis, pendant les 7 jours, et puis subitement, le huitième jour, le jour de la de nouveau monde, d'une nouvelle vie, c'est fini. C'est fini. Ça descend à un seul, et cet un seul, c'est le dernier sacrifice de toute l'année religieuse. Tout est fini. Le cycle est fini. Ça y est, c'est ça. Et bien sûr, ce dernier sacrifice parle aux Juifs du fait que ce système, à la fin de l'année, le système est en train de perdre de la vitesse et d'arriver à sa fin. Un seul sacrifice, le fini, l'achève, et on n'en offre plus. Donc les Juifs devaient comprendre, devaient se questionner, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, papa, est-ce qu'on offre tant de sacrifices et puis le dernier jour, c'est qu'un seul. C'est qu'un seul. C'est parce que le vrai jour d'expiation, le Christ vient pour finir tous les sacrifices lévitiques. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que cette fête annonçait aux Juifs qu'une vraie moisson arrive à la fin du monde. Une vraie moisson finale arrive. Et là, je ne parle pas, comme pour la fête de la Pentecôte, d'une moisson dans le sens que les gens se convertissent. Ça, c'est, on peut dire, Pierre a moissonné, il a prêché, 3 000 personnes sont devenues chrétiens, ils ont été moissonnés. Dans un sens, mais la vraie moisson, c'est pas juste que tu viennes au Seigneur et tu sois sauvé, mais que tu viennes au paradis. Ça, c'est la vraie moisson quand Dieu prend tout son peuple et les amène au repos final. Donc, c'est aussi de cela que ce passage nous parle de plusieurs manières. Je vous ai dit au début du sermon, si vous êtes rappeler que la fête avait deux noms. Quels étaient les deux? La fête des huttes et la fête de la moisson. Okay? De la moisson. De la moisson finale. Et donc, le peuple est reconnaissant pour la moisson dans une terre de repos. Canaan était la terre de repos. On y est maintenant. Et ils étaient reconnaissants pour leur moisson, que tout était donné maintenant. Ils avaient tout maintenant. Mais ça nous parle d'une moisson finale plus grande. Et pour cela, je voudrais juste vous lire quelques versets, si vous permettez. Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ok. C'est intéressant de voir comment la Bible nous montre ceci. Et je commence, ne tournez pas, si vous voulez marquer les références, sinon je vous les donnerai après. Dans le prophète Zacharie, et le chapitre 14 et le verset 16, nous trouvons ceci. Alors, tous ceux qui subsisteront, c'est une prophétie, hein, tous ceux qui subsisteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des huttes. C'est une prophétie qui dit le jour viendra où ceux qui étaient contre le vrai Dieu que seuls les Juifs adoraient pendant des siècles, les gens de toutes les nations vont plutôt adorer ce Dieu et vont célébrer la fête des huttes. Et donc, juste pour ajouter à cela, le prophète Agée, qui il n'est pas Agée, mais c'est son nom. Agée chapitre 2, nous lisons ceci. Le septième mois, vous y êtes avec moi, le septième mois, le 22 du, de 20, pardon, le 21 du mois, 21, je compte, ça c'est le septième jour de la fête des huttes. C'est pour ça qu'il faut lire bien la Bible, parce qu'il ne va pas mentionner la fête des huttes, mais si tu connais les chiffres, tu sais qu'il parle de ça. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée en ces mots. « Parle donc à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Josué, de Juda à Josué, fils de, etc. » Et il dit, « Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment le voyez-vous maintenant? N'a-t-elle pas l'air de rien à vos yeux? Nous sommes après l'exil. » Le temple a été détruit par Babylone, la ville, les Juifs sont emportés en exil, ils reviennent, ils reconstruisent un deuxième temple, mais ce temple est vraiment minable comparé au temple de Salomon, qui était un des sept merveilles du monde, de l'Antiquité. Et donc Dieu dit au prophète, comment est-ce que tu vois ce petit temple? C'est rien, n'est-ce pas? Et puis, il continue pour dire ceci. Attendez-moi, je regarde ma référence, les versets 6 à 9. Donc, il dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations. » Ça nous semble parler de la fin du monde, hein, n'est-ce pas? Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Donc ici aussi, le septième jour de la fête des huttes, Dieu parle à Agée d'une moisson où les nations vont venir avec toute leur gloire dans la maison de l'Éternel, dans la maison du paradis, et toute la maison sera remplie de sa gloire. Mais je vais passer sur les autres passages que je voulais vous dire, mais simplement pour vous dire que cette fête nous parle du dernier jour comme un temps où nous serons rassemblés et ramenés auprès de Dieu dans la gloire éternelle. Et troisièmement, ce rassemblement et cette moisson signifiera pour vous un repos et une demeure finale et parfaite. Oui, ils ont dû rester dans des huttes provisoires pendant 7 jours. Et cela, c'était pour rappeler que pendant leur temps entre Égypte et Canaan, symbole du paradis, ils étaient dans une situation provisoire. Et il y a en fait deux pensées là-dedans, c'est que nous sommes des pèlerins et des étrangers sur terre. Nous ne sommes pas d'ici, nous ne sommes plus d'ici. Et nous le sentons, n'est-ce pas? Nous savons que ça ne va pas dans ce monde. Et même si Dieu nous change et nous fait goûter de la vie à venir, ce monde est un monde de vanité. Et donc, nous sommes des gens sous des huttes qui vont vers un héritage éternel. Mais pendant cette période de demeure sur les huttes, les Juifs se rappelaient du fait que, oui, nous sommes finalement arrivés en Canaan. N'est-ce pas? Nous ne sommes plus dans cette situation provisoire. On est très content, le pays du repos. Mais ils remerciaient Dieu aussi du moment du pèlerinage. Ils le remerciaient pour la destination finale, mais aussi pour le fait que ces beaux arbres qui nous couvraient pendant tout le séjour, pendant tout le pèlerinage, Dieu était quand même avec nous. Il nous a accompagnés, il nous a bénis, il a pris soin de nous. Même si c'était provisoire, la beauté de l'Éternel était sur nous. Et donc nous aussi, nous devons regarder notre vie ici dans ces deux sens. La beauté de marcher avec Christ ici-bas, la beauté de sa grâce qui nous fait persévérer, qui ne va pas nous lâcher en cours de chemin, et la destination finale. Nous voyons cela dans beaucoup de textes bibliques, par exemple dans Hébreux chapitre 11 et verset 13, nous avons ceci. Pardon. L'auteur de l'épître dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. » Et si vous êtes chrétien, vous devez endosser ce maillot. Vous devez embrasser cette identité que nous, notre demeure, notre repos n'est pas ici. Et le mot repos est très important parce que l'être humain a besoin de ce sentiment que enfin je pose mes valises. N'est-ce pas? Et ça, nous n'arrivons pas complètement à voir cela ici. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas bien ici. On ne veut pas poser nos valises ici. Et nous devons comprendre que ça fait partie de la spiritualité chrétienne. C'est normal que vous ayez ce sentiment parce que ce n'est pas votre demeure. Vous êtes, votre patrie est ailleurs. C'est pour cela que Paul, en 2 Corinthiens 5, dit ceci. Et il utilise l'image de la fête des huttes, d'habiter sous des tentes. Il dit, nous savons en effet que notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite. Si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, il parle du corps, mais il utilise le même langage que la fête des huttes. Si cette tente est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Et ainsi de suite. La dernière chose, c'est que cette moisson finale de cette fête de moisson, aux fêtes des huttes, signifie la satisfaction parfaite et finale. Après l'exil, les Juifs ont ajouté beaucoup de détails à cette fête, comme ils ont souvent fait. Ils sont des experts pour compliquer les rites. Donc, ils ont ajouté des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et au temps de Jésus, ça se passait un peu comme ceci. Au moment où on s'apprêtait pour le sacrifice au temple, un des sacrificateurs sortait à la piscine de Siloam et il sortait avec une cruche en or. Il prenait de l'or dans cette piscine et il revenait auprès de l'autel où il y avait une autre cruche en argent remplie de vin. Et donc on déversait le vin et l'eau de ces cruches partait en sacrifice à l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme les autres sacrifices. Nous donnons la première partie à l'Éternel qui nous donne du vin et de l'eau en abondance. Donc, qu'est-ce qui leur a manqué dans le désert le plus? De l'eau. C'était la crise dans le désert. Dans cette période de pèlerinage sous les huttes, l'eau était le problème. Et donc, arrivé dans le repos final de Canaan, le peuple a tellement de l'eau qu'ils peuvent aller en prendre et verser ça par terre, reconnaissant que Dieu nous satisfait complètement de l'eau. Et la Bible nous raconte ceci, l'évangile de Jean. Et nous terminons avec ceci. Or, verset 2 du chapitre 7, or la fête des Juifs, celle des huttes, était proche. Je saute au verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête des huttes, Jésus, debout, cria dans le temple, si quelqu'un a soif de l'eau vivante, de la vie éternelle, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Car celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc, nous voyons, j'allais prendre du temps pour vous montrer en fait que les quatre choses que je viens de vous dire se trouvent tous dans le texte d'Apocalypse qu'on a lu dans le culte, l'idée d'une moisson, on voit toute cette foule qu'on ne peut pas compter, n'est-ce pas, devant l'Éternel, on voit qu'il y a une expiation finale, ils sont en robe blanche. Qui sont les gens en robe blanche? C'est ceux qui ont été lavés par l'agneau, l'expiation finale. Et ensuite, ce repos, Dieu dresse sa tente sur eux, dit l'Apocalypse, nous l'avons lu, il dresse sa tente, c'est la demeure finale. Et dans le texte, il dit, ils n'auront plus soif, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur, l'agneau, les amène auprès des eaux vives. Et donc l'Apocalypse prend tout ce qui est dans la fête des huttes et il nous dit, ça vient, attendez seulement. Vous n'êtes pas fait pour ici. Mettez-vous en espérance. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ont un christianisme complètement du présent. Leur horizon spirituel est complètement rempli des activités chrétiennes d'ici-bas, du service chrétien, de l'évangélisation du monde, de leur sanctification, et ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça qu'on vit la vie chrétienne. Ce n'est pas comme ça que les saints d'autrefois vivaient la vie chrétienne. Samuel Rutherford, le vieux puritain remarquable, a dit, je suis un homme courbé et en attente du souper, du dernier souper de l'agneau. Et la Bible dit que nous sommes des gens qui ont abandonné nos idoles, je suis en train de citer Paul aux Thessaloniciens, abandonné nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, le présent, et attendre son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Nous sommes des gens profondément en attente. C'est ça la spiritualité chrétienne. Nous devons palpiter d'espérance et d'anticipation. Paul, à un moment donné, pensait qu'il allait mourir en prison. Il n'était pas sûr qu'on n'allait pas l'exécuter. Et il a dit, en Philippiens chapitre 1, il a dit, je suis vraiment déchiré. J'ai envie de rester auprès de vous pour vous aider, mais j'ai envie de partir et d'être avec Christ, qui est de loin meilleur. Et je pense que c'est assez remarquable que Paul, qui a eu toutes les expériences de la vie chrétienne d'ici-bas que vous pouvez souhaiter, hein, vous voulez vous préoccuper, vous obséder de ce qui peut se passer ici, miracle, guérison, il a tout vu, il a tout eu. Mais là-dessus, il a crié sur tout ce qu'il a vécu de grand ici-bas, il a dit de loin meilleur, beaucoup meilleur, beaucoup meilleur. Et la fête des huttes nous enseigne profondément cette leçon. Quoi que vous viviez ici-bas, vous vivez sur des huttes. Vous n'avez rien vu jusqu'ici. Le palais est à venir. Nous allons chanter au Seigneur le 335.